Chapitre 23. Telle est l'erreur du pouvoir. Il ne s'exerce en définitive que dans un absolu, un univers limité. Mais la grande leçon de notre univers relativiste est que les choses changent. Tout pouvoir doit toujours affronter un pouvoir plus grand. Paul Muad'Dib enseigna cette leçon aux Sardaukars dans les plaines d'Arakin. Ses descendants ont encore à l'apprendre pour leur compte. Le prêcheur en Arakin. Le premier suppliant de l'audience du matin était un troubadour kadéchienne, un pèlerin du Hajj qui s'était fait vider sa bourse par des mercenaires de la cité. Immobile sur les dalles vertes d'eau, il ne semblait pas mendier une faveur. Deux trônes identiques avaient été mis en place sur la plateforme qui dominait la salle de ses 7 degrés. C'étaient les trônes de la mère et de la fille, mais Jessica remarqua qu'Alia était placée à sa droite, ce qui correspondait à la position masculine. Jessica admirait l'air décidé du troubadour. Il était bien évident que les gens de Djavid ne l'avaient admis que pour cette qualité. Ils escomptaient que le troubadour distrairait les courtisans présents. C'était la seule forme de paiement qu'il pouvait assurer, puisqu'il n'avait plus d'argent. Selon le rapport du prêtre-avocat qui plaidait à présent le cas, le kadéchienne n'avait plus que son vêtement et la balisette qu'il portait sur l'épaule, maintenue par une lanière de cuir.
Il déclare qu'on lui a fait absorber un breuvage sombre, disait l'avocat, réprimant difficilement un sourire. Qu'il n'en déplaise à votre sainteté, cette boisson l'aurait maintenu éveillé mais hors d'état de rien faire tandis qu'on lui prenait sa bourse.
Jessica observa le troubadour tandis que l'avocat continuait de bourdonner son plaidoyer pétri de fausses soumissions, la bouche pleine de fausses morales. Le kadéchienne était grand. Il atteignait près de 2 mètres. Il avait un regard inquisiteur où elle lut de l'intelligence et de l'humour. Suivant la mode de sa planète, il portait ses cheveux blonds dorés longs jusqu'aux épaules. La robe grise du Hajj ne pouvait dissimuler la virilité de son corps élancé, de sa poitrine puissante. Il répondait au nom de Tagir Mohandis, et il était le descendant d'ingénieurs marchands. Il était fier de lui et de ses ancêtres. Alia interrompit le plaidoyer d'un simple geste et déclara sans détourner la tête
« Dame Jessica, pour honorer son retour parmi nous, va rendre ce premier jugement. »
« Merci, ma fille, » dit Jessica, mettant l'accent sur son ascendance afin que chacun entendît. « Ma fille. » Ainsi donc, ce Tagir Mohandis faisait partie de leur plan. Ou bien n'était-il qu'une dupe innocente?
Ce jugement marquait l'ouverture des hostilités contre elle, se dit Jessica. L'attitude d'Alia le confirmait clairement.
Sais-tu bien jouer de cet instrument?
Demanda-t-elle en désignant la balisette à 9 cordes du troubadour.
Aussi bien que le grand Gurney Halleck lui-même.
Tagir Mohandis s'était exprimé d'une voix forte, à l'intention de toute l'audience, et il y eut quelques mouvements révélateurs parmi les courtisans.
« Tu es en quête de l'argent nécessaire à ton voyage, » dit Jessica. « Où te conduira-t-il ? »
« Jusqu'à Salusa Secundus, à la cour de Faradin, » dit-il. « J'ai entendu dire qu'il recherchait des ménestrels et troubadours, qu'il encourage les arts et qu'il édifie une manière de renaissance et de nouvelles cultures autour de lui. »
Jessica se retint de regarder Alia. Ils savaient tous, bien sûr, ce que Mohandis demanderait. Mais cette comédie lui plaisait. La croyait-il incapable de parer le coup?
« Voudrais-tu jouer pour payer ton passage ? »
demanda-t-elle.
« Mes conditions sont à la manière Fremen. Si ta musique me plaît, je pourrais te garder ici pour apaiser mes soucis. Si elle offense mes oreilles, je pourrais t'envoyer gagner l'argent de ton voyage dans le désert. Mais si je juge que ta façon de jouer puisse convenir à Faradin, qu'on dit un ennemi des Atréides, je t'enverrai à lui avec ma bénédiction. Veux-tu jouer selon ces conditions, Tagir Mohandis ? »
Le troubadour rejeta la tête en arrière et partit d'un immense rire rauque.
Ses cheveux blonds voltèrent tandis qu'il prenait sa balisette en main et l'accordait habilement, indiquant par là qu'il acceptait le marché. La foule voulut se rapprocher, mais elle fut maintenue à distance par les courtisans et les gardes. Morandis pinça une note, éveillant et soutenant le chant grave des cordes sises sur le côté de la balisette, averti de leurs vibrations qui forçaient l'attention. Puis il chanta, d'une voix mélodieuse de ténor. Il était évident qu'il improvisait, mais le ton était si juste que Jessica tomba sous le charme avant de se concentrer sur les paroles. Tu dis pleurer Caladan et ses mères, où les Atreides autrefois régnèrent sans rémission. Mais les exilés sont en terre étrangère. Tu dis qu'en des heures amères, des hommes rudes ont vendu tes rêves de Shai-Hulud pour nourriture fade. Et les exilés vivent en terre étrangère. Tu fis pousser Arrakis infirme et rendis silencieux le passage du ver et tu conclus ton temps, tandis qu'exilés vivent en terre étrangère. Alia, toi qu'on nomme Kohantin, l'esprit invisible qui chemine jusqu'au moment de...
Assez !
Cria Alia. Elle se dressa à demi.
Je vais te faire Alia !
Jessica s'était exprimée avec suffisamment de force, ajustant sa voix afin d'éviter l'affrontement, tout en captivant l'attention de l'audience. C'était là un usage émérite de la voix, et tous ceux qui l'avaient entendue ne pouvaient que reconnaître une puissance parfaitement contrôlée dans cette démonstration. Alia s'était rencoignée dans son trône, et Jessica remarqua qu'elle ne montrait pas le moindre signe de contrariété. Cela a également été prévu, se dit-elle. Très intéressant.
Ce premier jugement m'appartient, rappela Jessica.
Très bien,
acquiesça Alia d'une voix presque inaudible.
Voici un présent qui conviendrait à Faradine, dit Jessica. Sa langue a le tranchant du Chris. La saignée que cette langue pourrait administrer ferait du bien à notre cour, mais je préférerais qu'il la réserve à la maison de Corino.
Une vague légère de rire parcourut la salle. Alia souffla violemment.
Savez-vous de quoi il m'a traité?
Mais de rien, ma fille. Il n'a fait que rapporter ce qu'il a entendu comme tant d'autres dans les rues. On vous a surnommé la Kohantin.
L'esprit femelle de la mort qui marche sans pied,
grinça Alia.
Si vous écartez ceux dont les rapports sont exacts, remarqua Jessica d'une voix douce, il ne vous restera que ceux qui savent ce que vous voulez entendre. Pour moi, il n'est rien de plus toxique que de croupir dans la puanteur de ses propres reflets.
Elle put entendre les exclamations étouffées de ceux qui étaient proches de l'estrade. Elle concentra son attention sur Morandis. Celui-ci demeurait silencieux, indifférent. Il semblait que n'importe quel jugement lui serait absolument étranger. C'était là, songea Jessica, le type d'homme que son duc aurait aimé avoir à ses côtés en des temps difficiles. Confiant en son propre jugement, mais acceptant ce qui en résultait, même la mort, sans maudire son destin. Pourquoi avait-il donc choisi d'agir ainsi?
Pourquoi as-tu chanté de telles paroles?
Demanda Jessica. Il leva la tête pour mieux se faire entendre.
J'ai entendu dire que les Atreides étaient gens d'honneur et qu'ils avaient l'esprit ouvert. Je voulais les mettre à l'épreuve, et ainsi, peut-être, demeurer ici à votre service, ce qui me donnerait le temps de retrouver mes voleurs et de disposer d'eux à ma manière.
Il ose nous mettre à l'épreuve,
marmonna Alia.
Pourquoi pas?
Demanda Jessica. Elle sourit au troubadour pour lui signifier son assentiment. Il n'était venu dans cette salle que pour une autre aventure, un autre voyage dans son univers. Jessica éprouvait l'envie de l'attacher à son propre entourage, mais la réaction d'Alia ne présageait que le mal pour le brave Morandis. Et puis, il y avait tous ces signes qui indiquaient nettement que c'était bien la conduite que l'on attendait de Dame Jessica. Qu'elle prenne à son service un beau et brave troubadour, tout comme elle avait pris Gurney Halleck. Non, il valait mieux que Morandis fût autorisé à poursuivre sa route, même si la pensée d'un tel présent entre les mains de Faradine était ulcérante.
« Qu'on l'envoie à Faradine, »
dit Jessica.
veiller à ce qu'il reçoive l'argent de son passage et que sa langue aille donc tirer le sang de la maison de Corino. Nous verrons bien comment il survivra. »
Alia regarda fixement le sol avant d'esquisser un sourire tardif.
« Que la sagesse de Dame Jessica décide, » déclara-t-elle.
Et d'un geste, elle ordonna à Morandis de se retirer.
Cela ne s'est pas passé comme elle le désirait, pensa Jessica. Mais certains détails de l'attitude d'Alia lui annonçaient une épreuve plus décisive. On amenait un nouveau suppliant. Observant la réaction de sa fille, Jessica fut assaillie par les premiers doutes. Elle aurait besoin des enseignements de la leçon des jumeaux. Alia pouvait être l'abomination, mais elle était une prénée. Elle pouvait connaître sa mère aussi bien qu'elle se connaissait. Et elle ne pouvait méjuger de ses réactions dans cette affaire du troubadour.
Pourquoi a-t-elle donc monté cette confrontation ? Se demanda Jessica. Pour faire diversion ?
Elle n'avait plus le temps de réfléchir. Le second suppliant attendait, au bas des deux trônes, son avocat près de lui. C'était un Fremen, un vieil homme qui portait les marques d'un natif du désert sur son visage. Il n'était pas de très haute taille, mais son corps sec et nerveux et la longue dige d'acha d'ordinaire portée sur un distille lui conféraient une certaine majesté. La robe s'accordait à son visage long et étroit, à son nez d'aigle et au regard intense de ses yeux bleus d'Ibad. Il ne portait pas de distille et ne semblait pas être à son aise ainsi. La salle d'audience immense devait ressembler pour lui à l'air libre qui vole la précieuse humidité de la chair. Il avait rejeté à demi son capuchon et Jessica put voir qu'il portait le chignon kefia d'un naïb.
« Je suis Gadehan Al-Fali, »
dit-il en posant un pied sur la première marche pour marquer son rang.
« J'appartenais au commando de la mort de Muad Dib, et je suis ici pour un sujet qui concerne le désert. »
Alia ne se trahit que par un infime tressaillement. Le nom d'Al-Fali figurait au bas de la requête présentée par les tribus pour la réintégration de Jessica au sein du conseil.
Un sujet qui concerne le désert, pensa Jessica.
Gadehan Al-Fali avait parlé avant même que son avocat ait entamé sa plaidoirie. Par cette simple phrase Fremen, il venait de notifier à chacun qu'il allait s'ouvrir d'une affaire qui concernait Dune tout entière, et qu'il parlait nanti de l'autorité d'un Fedaikin qui avait risqué sa vie aux côtés de Paul Muad Dib. Jessica doutait qu'il se fût annoncé ainsi auprès de Javid ou de l'avocat général, ce qui lui fut confirmé aussitôt. Un membre de la prêtrise accourait du fond de la salle, brandissant le chiffon noir de l'intercession.
« Mesdames, n'écoutez pas cet homme !» lança-t-il.
« Il est venu ici sous une fausse... »
À l'instant où elle vit le prêtre, Jessica entrevit le geste d'Alia, à la limite de son champ visuel. Dans l'ancien langage de bataille des Atréides, la main de sa fille faisait le geste « Allez ». Sans chercher à savoir à qui ce signal pouvait s'adresser, elle réagit instinctivement. Elle se jeta violemment sur la gauche, entraînant le trône avec elle. Elle tomba et elle roula loin du trône à la seconde où il s'écrasait. Elle se redressa et perçut le claquement net d'un pistolet Mola, puis un autre. Elle courait déjà. Quelque chose frappa sa manche droite. Elle plongea dans la foule des courtisans et suppliants rassemblés sous le dais. D'un bref regard, elle constata qu'Alia n'avait pas fait un mouvement. Au sein de la foule, elle s'arrêta. Elle vit que Gadehan Al-Fali s'était jeté de l'autre côté du dais, mais son avocat était resté là où il se trouvait. Tout s'était déroulé avec la rapidité d'une embuscade, mais ceux qui se trouvaient dans la salle savaient à quoi des réflexes entraînés auraient conduit quelqu'un pris par surprise. Alia, de même que l'avocat, était demeurée figée sur place. L'attention de Jessica fut attirée par un remous au centre de la salle. Elle se fraya un chemin dans la foule et vit alors quatre suppliants qui s'étaient emparés du prêtre. Le chiffon noir de l'intercession était tombé à ses pieds, révélant le pistolet Mola. Al-Fali devança Jessica, s'arrêta et regarda successivement le pistolet et le prêtre. Avec un cri de rage,
Il leva la main gauche, les doigts rigides, et frappa en Atchag. Les doigts de pierre atteignirent la gorge du prêtre et il s'effondra. Sans même un regard en arrière, le vieux Naïb se tourna vers le dais, une expression de fureur sur le visage.
« Talalela Nouboa !»
lança-t-il, plaçant les paumes de ses mains sur son front, puis les abaissant.
« Le Kadis à Salaf ne permettra pas que je sois réduit au silence. Si je ne terrasse pas ceux qui interfèrent, d'autres le feront. »
Il pense que c'était lui qui était visé, se dit Jessica. Ses yeux se portèrent sur sa manche, et elle enfila un doigt dans le trou laissé par la fléchette Mola, empoisonnée sans doute. Les suppliants avaient lâché le prêtre. Le larynx écrasé, il était agité d'ultimes convulsions. Jessica désigna deux courtisans effrayés qui se trouvaient à sa gauche.
« Je veux que cet homme soit sauvé et soumis à la question. S'il meurt, vous mourrez aussi. »
Les deux courtisans hésitèrent, regardant désespérément vers le dais, et elle fit usage de la voix.
« Allez !»
Ils obéirent. Jessica se porta aux côtés d'Alphali.
« Ne soyez pas stupide, Naïb. C'était à moi qu'ils en voulaient, pas à vous. »
Quelques-uns parmi ceux qui les entouraient l'entendirent. Il y eut un silence stupéfait. Alphali leva les yeux sur le dais, sur le trône renversé et brisé, et sur Alia toujours immobile. La compréhension se fit jour sur ses traits, si clairement qu'un novice pouvait la lire.
« Fedaïkin, » dit Jessica,
lui rappelant le vieil attachement qu'il avait avec sa famille.
« Nous qui avons connu le feu, savons nous tenir dos à dos ?»«
Ayez confiance en moi, madame, »
dit-il, comprenant aussitôt.